BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech & Co Business sur BFM Business. On va beaucoup parler d'IA et de cloud aujourd'hui puisque nous sommes à l'AWS Summit à Paris, porte Maillot. Alors on va recevoir évidemment Sia Partners, AWS, on va parler d'un outil Sia GPT. On parlera aussi de e-santé avec iHeart, c'est une start-up qui travaille sur l'imagerie du cœur avec de l'intelligence artificielle. Deuxième partie de l'émission, on parlera cybersécurité, on parlera des services bancaires aussi de Thales et puis on terminera par l'interview de la grande patronne du numérique chez Airbus, à parler data et encore une fois d'intelligence artificielle. Allez, on était à l'AWS Summit, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
BFM Business, Tech & Co Business, les invités.
Allez, on démarre cette émission. Justement, on va parler, alors je vous rappelle, nous sommes à l'AWS Summit. On va parler évidemment beaucoup d'IA et beaucoup d'IA générative avec nos deux invités suivants. David Martineau, bonjour.
Bonjour.
David, directeur général adjoint de Sia Partners, et Valérie Koskas, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Valérie, directrice partenaire chez AWS France. David, je vais démarrer avec vous. Vous avez été parmi les premiers cabinets de conseil à lancer un outil Sia GPT. J'avais vu la publicité, je me suis dit, bah, tiens, voilà, ça vient démarrer. Ça consiste en quoi chez vous exactement?
Alors nous, l'idée effectivement était de fournir très rapidement l'équivalent d'un chat GPT, mais qui reste dans le monde de l'entreprise, avec l'ensemble des éléments nécessaires pour utiliser ce type d'outil dans l'entreprise. Autrement dit, ne pas faire sortir les données, ne pas entraîner des modèles et oui, ne pas savoir où est-ce que, comment ces modèles pourraient réutiliser nos données internes différemment sans qu'on le veuille.
Toutes les pistes qu'on a explorées au oui, tout début sans faire attention.
Voilà. Exactement, et qui est un peu trop sans faire attention peut-être. Ah oui. Donc on a voulu très très vite essayer de fournir un outil qui permettait de travailler de la même façon, mais dans le cadre de l'entreprise. Et puis après, au fur et à mesure, évidemment, plein de cas d'usage sont venus se greffer là-dessus. Donc, sur cette plateforme technologique.
Donc au début, c'était pour votre propre usage. Et puis ensuite, voilà, vous vous êtes dit, bah, tiens, finalement, oui, ça pourrait servir, notre expérience pourrait servir à nos clients.
Oui, alors évidemment, très rapidement, on l'a mis en place pour nos propres consultants. Vous avez raison, le métier du consultant, il nécessite de manipuler beaucoup de documents, oui, d'en générer beaucoup, d'en traiter beaucoup, des contrats, des rapports, tout ce qu'on veut et autres. Et donc du coup, effectivement, très rapidement, on avait mis en place cet outil. Alors, on avait une forte compétence déjà, on était complètement dans le cloud, notamment AWS, hein, ça mm-hmm, nous a oui, beaucoup aidé. On était déjà très compétent sur la partie AI et donc et sur les fameux LLM. Mm-hmm. Et quand est arrivé la Gen AI et le buzz avec ChatGPT, ben, on n'était pas très surpris. Et quelques mois après, on avait un outil qui était déployé sur l'ensemble de nos collaborateurs. Et aujourd'hui, donc depuis presque un an maintenant, nos collaborateurs ont donc 3300 consultants, ont à peu près traité 2500 projets, je pense, depuis sur Sia GPT.
On va revenir justement sur les cas clients. Valérie, on a vu, alors évidemment, quand on a parlé de ChatGPT, on a beaucoup parlé voilà, d'un certain OpenAI hein, qui était. Et aujourd'hui, alors à l'AWS Summit, il y a Anthropic hein, qui est là, parce que justement, Amazon a mis un peu plus de temps que les autres à communiquer sur ces modèles de langage. Et aujourd'hui, ça y est, ces gros investissements d'Anthropic notamment. Vous en êtes où aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, à la keynote, il y avait non seulement Anthropic, mais aussi Mistral.
Ah oui,
Hugging Face. Et en fait, c'est exactement ce que fait AWS. AWS ne croit pas trop au one size fits all, oui, et pense que pour chaque client et pour chaque cas d'usage, il y a un modèle bien adapté. Et donc, on offre à travers Amazon Bedrock à nos clients le choix du meilleur modèle adapté à son besoin. Et donc notamment celui de Anthropic ou celui de Mistral et on travaille aussi avec un certain nombre de partenaires oui, mais je pense qu'on y reviendra
parce que
après.
C'est ce dont on s'est rendu compte hein, au fil des mois, c'est que voilà, on pouvait utiliser différents modèles, alors soit des grands modèles, soit des modèles plus petits, des modèles spécifiques. On a vu Mistral arriver, tout le monde s'est dit mais comment ils pourront concurrencer des géants, et finalement ils le font sur des modèles beaucoup plus précis, hein, c'est ça l'idée?
C'est ça, c'est exactement ça. Pour chaque besoin, il y a un modèle bien adapté. On n'a pas forcément besoin d'enfoncer un cas d'usage avec des modèles
des millions de tokens.
Exactement.
Comme on dit, ouais.
Et donc, on offre le choix des modèles, on offre aussi le choix des puces, mm-hmm, avec les puces AWS, avec oui, Trainium et Inferentia, avec également les puces de partenaires comme Nvidia. Et c'est vraiment ce choix-là qu'on offre à nos clients.
Oui, on sent un peu qu'on est, on se retrouve parfois, alors de façon beaucoup plus rapide, mais au début d'Internet où on choisissait son OS, sa base de données, tout ça. Là, c'est un peu ça. On fait un peu son puzzle. David, justement, vous parliez de 2500K utilisateurs. Comment justement on convainc les entreprises à se lancer? Parce qu'on sait que les deux premières craintes, c'est attention. Quand on parle d'IA et d'IA générative, c'est attention à ma donnée, attention à mon job.
Alors en fait, il y a eu deux choses. Si on regarde un peu d'historique depuis ChatGPT fin 2022, en fait, beaucoup d'entreprises ont pris des choix assez opposés. Certaines ont dit il faut pas se lancer, ferme tout, on interdit tout. Résultat, je pense qu'un an après, ils se sont rendus compte que les collaborateurs avaient fait ce que j'appelle du shadow AI, c'est-à-dire qu'ils avaient utilisé ChatGPT avec les données de l'entreprise dans leur coin, pire que tout. Et puis d'autres qui ont tout ouvert en disant on expérimente dans tous les sens. Mais un peu à l'envers de ce que a dit Valérie tout à l'heure, c'est-à-dire on prend la techno et puis à partir de ça, on essaye, on verra bien si des cas d'usage tombent. Mm-hmm. On est revenu aujourd'hui dans un mode un peu plus rationnel, dans lequel on repart du cas d'usage et on se dit, tiens, avec ce problème que j'ai, qu'est-ce que je vais trouver comme solution et est-ce qu'un modèle donc pour trouver une solution et avec une réponse à un vrai problème et un retour sur investissement. Mm-hmm. Donc en fait, on arrive à convaincre aujourd'hui les entreprises de deux façons. La première, c'est en démontrant ou en montrant ce qu'on peut faire. Et nous, une des raisons pour laquelle on a fourni ChatGPT à nos clients, c'était pour leur dire, regardez, on est capable de vous fournir un environnement sécurisé dans lequel vous pouvez jouer. Ah oui. Et donc, n'ayez crainte, vous pouvez tester, vous pouvez jouer, vous pouvez regarder. Ça, c'est le premier point. Et puis, dans le deuxième, c'est malgré tout en expérimentant et en faisant des prototypes. Et aujourd'hui, avec une approche, avec des technologies comme celles que propose AWS, plus plein de modèles et un peu d'expertise de data scientist, on est capable en 3 semaines de faire un prototype.
Trois semaines,
c'est ça à peu près le temps qu'on met aujourd'hui pour faire un prototype entre l'idée qui vient chez le client. Au bout de 3 semaines, on sait valider la faisabilité technique et on sait estimer le retour sur investissement si on déploie à l'échelle.
Parce que c'est ça, c'est vraiment, on a la data, il faut les cas d'usage, il faut aller convaincre son comex, qu'il faut investir dans tout ça.
Donc convaincre son comex, c'est vraiment deux choses. C'est encore une fois, pour moi, d'abord le cas d'usage. On a des cas d'usage et il y a des solutions qui vont être apportées grâce aux technologies. Ça revient à l'IA classique descriptive comme avant, mais ça s'applique aussi à l'IA générative, c'est le premier point. Puis le deuxième point, il y a quand même une question de est-ce que je suis pas en train de rater le train en marche? Parce que on voit quand même que l'IA générative a disrupté énormément de clients, énormément de modèles sur plein de sujets qui sont très génériques, l'hyperpersonnalisation pour les clients, de la recherche et de la génération de documents de façon très améliorée, de la construction, de la lecture d'images, etc. et autres. Évidemment, moi, j'explique à tous mes clients qu'aujourd'hui, regarder le train, c'est quand même un gros risque d'être déclassé parce qu'il y a certains processus que tout le monde va mettre en œuvre. Mm-hmm. Voilà. Et l'avantage concurrentiel se fera sur ceux qui ne l'ont pas fait, en fait.
Ouais. Et c'est là, Valérie, où vous intervenez avec AWS, justement, pour apporter, on parle, c'est énormément de données, c'est de la puissance de calcul, et puis c'est rassurer aussi un peu, on le dit aujourd'hui, alors, il y a évidemment, beaucoup parlent de souveraineté, mais justement, c'est là où vous venez de dire, mais vous pouvez avoir des environnements fermés, c'est ce qu'il faut faire auprès des...
Alors, en fait, on rassure à plusieurs niveaux. On rassure par le choix, on rassure par les coûts, parce que du coup le client peut choisir le modèle et l'architecture qui lui coûtera le moins cher. On rassure par l'environnement sécurisé, donc Amazon Bedrock sur lequel vont tourner les modèles du client. Et puis on rassure par l'accompagnement. Et on vient de lancer il y a un mois en fait, le 5 avril, la GenAI Competency, qui est une compétence qui vient récompenser ceux parmi nos partenaires qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Parce qu'aujourd'hui, des partenaires d'AWS, il y en a peut-être 130 000, il y en a plus de 130 000 dans le monde, il y en a plus de 200 actifs en France. Et donc ça fait beaucoup de partenaires différents. Et pour accompagner nos clients, un COMEX, une direction marketing, un directeur financier, un directeur technique, un directeur des infrastructures n'aura pas forcément le besoin du même type de partenaire pour l'accompagner. Il n'aura pas non plus besoin du même type de partenaire pour de la GenAI ou pour un projet SAP. Et donc là, on était très fiers au lancement de la Competency d'avoir 4 partenaires français qui étaient là dès le lancement. C'est rare qu'on en ait autant dès le lancement de la Competency.
Surtout que sur ce domaine Competency, c'est à la fois des métiers techniques qu'il faut former, mais en fait, c'est nous tous. Enfin, on le rappelle sans cesse, mais le rapport de la commission interministérielle le dit, la formation, ça doit être de n'importe quel collaborateur de l'entreprise, même de l'artisan jusqu'au dirigeant.
Et complètement. Et c'est pour ça que les partenaires aujourd'hui qui ont eu la competency, c'est assez vaste finalement. Ça va de Capgemini, Devoteam, Hugging Face ou Sia Partner. Donc c'est des partenaires très différents les uns des autres et qui vont accompagner parfois les mêmes types d'entreprises, souvent des personas différentes au sein des entreprises et pour répondre à des enjeux qui ne seront pas forcément les mêmes.
Parce que justement, c'est un peu ça la difficulté, David Martinon, là, cette acculturation. C'est que certaines populations de l'entreprise vont se sentir moins concernées parce qu'ils ne sont pas habitués à travailler avec de la tech, du numérique, alors que c'est peut-être eux qui ont les cas d'utilisation les plus... alors pour être plus productifs, mais peut-être parce que faire des choses qu'ils ne font pas aujourd'hui.
Alors quand ils se sentent moins concernés, encore, c'est le début de la réponse. Ouais, le problème, c'est quand ils se sentent menacés.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est encore pire en termes de situation. Mais aujourd'hui, effectivement, je pense que les gens n'ont pas le choix. C'est-à-dire que cette technologie, elle est là. Elle va être de plus en plus dans nos outils. On va faire de l'IA générative sans le savoir, comme on fait de l'IA depuis votre téléphone, depuis longtemps, dans la recherche Google et autres. Tout le monde en fait tous les jours, sans se dire c'est de l'intelligence artificielle. Pourtant, c'en est. L'IA générative, elle va percuter tout un tas de métiers en étant intégré dans des outils qui existent déjà. Enfin, que tout le monde utilise et sans s'en rendre compte. Et donc demain, la question, c'est vraiment d'acculturer pour que les gens n'aient pas peur, pour qu'ils comprennent effectivement comment utiliser ces outils. Vous disiez tout à l'heure qu'on était dans une phase un peu naissante de ce métier, mais c'est vrai. Aujourd'hui, peut-être que la facilité d'utilisation est plus faible que celle qu'on aura dans 1 ou 2 ans. Oui. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le prompt, hein, le fameux message qu'on tape, la façon dont on tape ce prompt va énormément influencer la réponse qu'on va avoir. Ça, c'est des sujets sur lesquels nous, effectivement, nos consultants sont habitués à savoir que derrière un modèle, il faut parler de telle façon, sur un autre modèle, pour la même question, il faut parler autrement, etc., etc. Et tout ça va être la science qu'on va apporter pour essayer de faire en sorte que, d'un côté techniquement, on sait répondre à ça, mais aussi d'un côté, on a même d'acculturation, on sait expliquer aux gens, regardez, on est plutôt dans un employé augmenté, plutôt que quelqu'un dont on va disrupter le métier de façon très négative. Et souvent, ce qu'on va enlever, c'est les tâches qui sont à moindre valeur ajoutée.
Valérie Koska, dans votre Competency Academy, là, c'est justement, il y a ça, apprendre à faire des prompts, hein, le prompt engineering,
l'appelle
aujourd'hui.
C'est un gros investissement pour nos partenaires qui l'ont eu. Il y a apprendre à faire des prompts, il y a démontrer un business model, et puis il y a faire des projets, délivrer des projets qui se sont bien passés, et il y a même, ensuite, on va chercher le questionnaire de satisfaction du client. Donc on va même s'assurer que le client était content de la mission qu'a réalisée le partenaire. Donc vraiment, ça se mérite et ils l'ont bien mérité.
Oui, nous, on est très contents d'être parmi les 4 élus en France sur 30 au total au lancement de cette compétence-ci. Et c'est vrai que c'est un travail de toute l'équipe. Hein. On a 400 data scientists derrière qui ont énormément travaillé pour ça et qui, effectivement, tu l'as dit, un des points importants pour moi, c'est de savoir délivrer en production un vrai projet sur un vrai cas d'usage d'un vrai client. Et c'est là où d'ailleurs la compétence prend tout son sens, c'est parce qu'elle témoigne, elle tamponne le fait qu'on sait faire ça.
On a parlé acculturation, on a parlé un peu maîtrise des coûts, ROI. Quid aussi de tout ce qui est sécurité, confidentialité? Alors on l'a dit très rapidement, je sais pas Valérie, quelle réponse apporter à ça quand les entreprises demandent quelles précautions il faut que je prenne vis-à-vis de la réglementation? Alors ma réglementation, si je suis dans la santé ou dans des domaines un peu sensibles, la réglementation européenne et puis ma propre charte d'entreprise.
C'est ce qu'on appelle le Responsible AI, bons français, désolé. Et effectivement, ça nous tient très à cœur et on est très impliqué dans tous les sujets auprès de la Commission européenne, à l'ONU, etc., sur l'IA responsable. Je pense que vous devez recevoir Sacha Rubel ces jours-ci pour parler de ce sujet également, qui est vraiment notre spécialiste en la matière. Donc en termes de sécurité et des briques techniques, évidemment, c'est Amazon Bedrock. Et en termes de l'accompagnement sur la façon d'entraîner les modèles, c'est tout un écosystème en fait qu'il faut et des bonnes pratiques qu'il faut mettre en place.
C'est ça, David, c'est éviter les biais, c'est tout ça qui est important aujourd'hui.
Oui, il y a plein de choses finalement. Vous disiez tout à l'heure la sécurité, je pense que nos clients ou tous les clients, toutes les entreprises, elles essayent évidemment d'avoir la sécurité et la souveraineté des données et de ne pas tomber dans des problèmes de fuite, on va dire. Mais L'autre point qui fait peur à tout le monde, c'est ces fameuses hallucinations. On dit, oui, est-ce que les modèles inventent des choses et autres. Alors, il y a plein de méthodes pour réduire ces hallucinations, notamment en ayant des modèles un peu spécialisés sur des choses, etc. et autres. Et donc, ça, c'est ce qu'on essaie aussi de proposer, d'expliquer aux clients quelles sont finalement les difficultés, les points durs, ceux sur lesquels nous, aujourd'hui, on apporte entre, la couche technique et les outils que met à disposition AWS, plus que nous, on a pu construire au-dessus et la compétence qu'on a, de dire, il y a tout un tas de choses sur lesquelles, en fait, on sait déjà y répondre. Donc, certes, c'est un problème, mais on a déjà des réponses. Il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui c'est plus ouvert. On parle des IACT il y a 2 secondes et autres. Il y a encore des choses qui sont. Alors nous, on a nos équipes de compliance et juridique qui n'arrêtent pas de regarder ce sujet-là, de faire des décodages pour nos clients et pour nous-mêmes, parce que nous aussi, on est finalement pour compte propre consommateurs forts d'IA.
Eh bien, on va continuer à parler de tout ça. Merci à tous les deux. David Martineau, directeur général adjoint de SIA Partners avec cet outil SIA GPT, et Valérie Koskas, directrice partenaire chez AWS France, voilà, qui est partenaire notamment alors sur ce salon AWS Summit et partenaire de SIA Partners pour cet usage de la Gen AI. Il faut du cloud derrière. Forcément, il y a de la data, il y a du cloud, il y a du calcul. Merci à tous les deux. On marque une courte pause. Merci, on se retrouve juste après. On va parler de e-santé. C'est tout de suite.
BFM Business, Tech & Co Business, Startup Booster.
Allez, on poursuit notre émission Tech & Co Business. Nous sommes ici depuis le AWS Summit, le grand rassemblement des développeurs autour d'Amazon Web Services. Et avec nous, une startup, Jean-Marc Perra. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes CTO et fondateur de iHeart. Alors i avec un i, voilà, on n'est pas, c'est pas le e de l'anglais. iHeart, on va dire si on le prononce en anglais. Alors racontez-nous un peu cette aventure. Démarrant en 2017 dans la région bordelaise, c'est ça?
Exactement. Ouais.
Un cardiologue, un radiologue, un chercheur de l'INRIA, vous-même qui est spécialisé en imagerie médicale, et un jour vous décidez de vous concentrer sur le cœur, c'est ça?
Alors, iHeart, c'est une spin-off de l'IHU Lyrique, qui est un des centres leaders dans le monde sur les arythmies cardiaques, donc les désordres électriques dans le cœur. Et en fait, il y a eu un projet de recherche qui a démarré au début des années 2010, qui a amené une technologie de jumeaux numériques du cœur du patient, qui a permis d'avoir un impact sur les interventions d'ablation par cathéter, qui permet de traiter les arythmies cardiaques. Et donc, quand on a vu l'impact que ça avait sur ces interventions, on a décidé...
Je vous interromps un instant. Ça n'existait pas du tout, des jumeaux numériques du cœur?
Alors, il y avait des jumeaux numériques, mais ils étaient essentiellement utilisés pour aider à designer des nouveaux dispositifs médicaux, à avoir des impacts de la pharma sur de médicaments sur le cœur. Mais il n'y avait pas d'application clinique bien identifiée, avec une forte valeur ajoutée, qui permet d'améliorer le soin du patient, en fait.
D'accord. Donc vous, le principe, donc vous avez un patient, vous allez, alors comment vous allez prendre cette image du cœur et puis qu'est-ce que vous allez en faire derrière?
Alors nous, on a un modèle de service sur le cloud où l'hôpital va nous envoyer ces images. On va traiter avec de l'IA ces données, générées automatiquement à partir de scanners ou d'IRM, donc ce jumeau numérique du cœur du patient, donc une copie digitale du cœur du patient avec tous les détails anatomiques et des biomarqueurs qui vont permettre d'identifier l'origine des arythmies cardiaques et donc de mieux planifier et guider ces interventions par la suite.
Donc c'est là où va jouer le rôle de votre votre caractéristique iHeart, c'est comprendre l'image et puis surtout faire tourner votre intelligence artificielle pour essayer de déceler les anomalies autour du fonctionnement de ce cœur, c'est ça?
Exactement, c'est du traitement d'image et de le visualiser en 3D de manière simple et efficace et actionnable pour un cardiologue dans le but de préparer son intervention.
Et donc, alors évidemment, on comprend votre présence ici à la AWS Summit parce que c'est énormément de données, c'est de la puissance de calcul et donc vous appuyez sur le cloud justement pour proposer, ce sont les hôpitaux hein, qu'on comprenne bien vos clients.
Oui, nos clients sont
les hôpitaux. Et les hôpitaux vont prendre un des services chez vous et donc toute la data va être dans le cloud. C'est ça qui vous permet vous de vous concentrer sur vraiment le traitement de l'image et de travailler sur l'analyse des images du cœur.
Exactement, on a un service sur le cloud qui tourne sur AWS d'ailleurs et qui permet de générer très rapidement ces données. Qui vont être ensuite renvoyés au cardiologue qui va pouvoir visualiser pour planifier son intervention à travers une plateforme web et ensuite l'exporter dans un fichier de format compatible avec les systèmes de navigation et l'utiliser en salle d'intervention.
Quelle est la difficulté d'un point de vue data aujourd'hui pour justement transiter par le cloud? On est quand même dans le domaine des data de santé. On sait, bon, il y a beaucoup de fantasmes autour de la data de santé, mais voilà, sur quoi vous appuyez pour que sécuriser tout ça, pour travailler dans un environnement de confiance?
Alors nous, on travaille sur un hébergeur de données de santé déjà, pour remplir toutes les conditions du RGPD, etc. Ouais. Et l'autre aspect, pour sécuriser encore plus les choses, c'est qu'on demande d'anonymiser les données avant de nous les envoyer pour les traiter. Donc il y a une double sécurité. Et donc dans la solution actuelle, ça marche très bien.
Aujourd'hui, donc vous êtes une trentaine de personnes.
Ouais.
Donc ce sont plutôt des compétences sur le traitement de l'image, c'est ça, et puis le faire travailler des modèles d'IA. Comment vous entraînez ces IA justement à comprendre ce qui va se passer dans
alors
dans
ça,
ce
c'est
cœur.
Une très bonne question. Nous, on avait un modèle un peu vertueux de fonctionnement. On a commencé à commercialiser sans IA.
Ouais.
On a des experts en interne qui annotaient les données pour notre besoin spécifique, ce qui fait qu'en même temps qu'on développait notre activité commerciale, on développait une base de données annotée par des experts.
D'accord.
Qui nous a permis de développer nos outils d'intelligence artificielle.
Ça veut dire que vous achetez, par exemple, des diagnostics de cœur, enfin, je ne sais pas si ça existe.
Non, en fait, nous, on n'achète pas.
De diagnostics, et puis vous les intégrez aussi pour entraîner votre modèle
En fait, on utilise nos experts en interne qui vont D'accord. annoter les données.
Et donc, c'est eux qui vont fournir ce matériel. Enfin,
c'est un mix des données qui viennent de l'hôpital et de notre savoir-faire.
D'accord.
Pour générer ensuite les outils d'intelligence artificielle.
On parle beaucoup d'IA générative, évidemment, en ce moment et depuis 18 mois. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui va transformer votre métier? Notamment, on imagine, vous avez vous-même été cofondé par un cardiologue, un radiologue, des médecins qui vont pouvoir, presque en langage naturel, demander à l'IA qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce modèle de cœur. On pourrait aller jusque-là?
Ouais, on pourrait aller jusque-là.
Après,
Je suis pas sûr que ce soit l'application la plus pertinente. Dans notre cas de l'imagerie, la Generative AI va surtout être utile à générer des données synthétiques pour améliorer l'apprentissage des algorithmes d'intelligence artificielle.
Oui, c'est d'apprendre, on est dans le deep learning, quoi. Elle va apprendre un peu
exactement.
De tout ça. Aujourd'hui, pour terminer là-dessus, Jean-Marc Perra, donc CTO, cofondateur de iHeart, en termes de financement, vous êtes en train de finaliser, c'est ça, votre levée de fonds?
Donc là, on est en train de finaliser une levée de fonds qui va se terminer incessamment sous peu et qui va nous permettre de nous développer commercialement, d'accélérer le développement commercial et de développer d'autres projets R&D. On a deux gros projets, dont un projet MediTwin avec Dassault Systèmes pour faire un jumeau numérique du patient. Et nous, on va s'atteler au problème du cœur et de la prédiction du risque de mort subite.
Oui, vous devancez ma dernière question qui était autour de... Parce qu'on connaît bien évidemment Dassault Systèmes, tout l'intérêt qu'il porte aujourd'hui à la santé. Et évidemment, oui, on est français, start-up française, c'est un peu le passage obligé de travailler avec Dassault Systèmes aujourd'hui.
Pas un passage obligé, mais c'est un passage qui est très excitant.
Un accélérateur,
c'est très excitant de travailler avec cette entreprise qui a énormément d'ambition sur le sujet. Et de savoir qu'il y a un savoir-faire français dans le domaine de la santé, de l'imagerie, etc. Et de pouvoir contribuer à ça avec un acteur comme ça, c'est merveilleux.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu parler de tout ça, Jean-Marc Perra. Je rappelle, vous êtes CTO, cofondateur de iHeart, spécialiste dans l'imagerie médicale, dans l'IA, dans le cloud, pour justement analyser le fonctionnement du cœur. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on va marquer une courte pause.
Merci à vous.
Juste après, on est toujours à l'AWS Summit à Paris.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Allez, on est reparti pour cette émission depuis l'AWS Summit et nous recevons Caillot Reis. Bonjour.
Bonjour.
Caillot, merci d'être avec nous. Vous êtes en charge de la stratégie services bancaires et solutions de paiement chez Thales. Alors, pour les plus anciens, on dirait que c'est une partie de Gemalto qui a été rachetée par Thales. Ça fait déjà 5 ans déjà. Ça fait déjà quelques années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une personne sur trois dans le monde a une carte bancaire Thales dans la poche. Ce sont 250 millions de cartes éco-responsables. On va en reparler avec vous. Et puis, vous êtes aussi évidemment présent dans le digital. 120 banques dans le monde utilisent votre plateforme D1. On va en reparler. 110 millions de consommateurs. Ma première question, c'est... Alors, dès qu'on parle service bancaire, les questions, elles ne manquent pas. On parle les fintech, les GAFAM, hein, vous êtes très challengés par eux. Sur la gestion des identités, la sécurité, les interfaces biométriques, commandes vocales, reconnaissance faciale, on ajoute une note et on en reviendra de développement durable. C'est quoi vos défis là, dans tout ça aujourd'hui, Caillot ?
Donc notre défi, c'est vraiment de pouvoir, nous avons plus de 3000 clients bancaires dans le monde. Donc notre gros défi, c'est de pouvoir accompagner ces banques dans leur parcours de transformation digitale. Et donc comment on peut faire ça d'une façon globale? Nous supportons toutes ces banques avec des demandes qui sont différentes de chaque marché, chaque différent type de niches de marché même. Et donc notre grand défi, c'est de pouvoir les supporter, accompagner la transformation, pouvoir vraiment travailler dans cette modernisation de leur infrastructure bancaire, mm-hmm. et qu'eux, ils puissent être capables de faire face à tous leurs défis, leurs challenges, en augmentant l'expérience de leurs clients.
Parce que je le disais, c'est ça. Hein. Vous avez vu, alors ça fait quand même quelques années qu'elles sont apparues, mais c'est FinTech qui sont arrivées, c'est GAFAM aussi qui viennent vous challenger. Donc là, à vous d'innover encore davantage, hein, c'est ça l'idée?
Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on voit, c'est que bon, d'abord, les FinTech, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment de travailler une meilleure expérience client.
Oui.
Donc comment ils apportent le même service avec une expérience cliente améliorée. Et après, à côté, les GAFAM, comme Amazon, par exemple, il met en place des expériences qui deviennent le défaut, les standards. Donc, par exemple, quand on achète à distance, c'est la expérience Amazon qu'on veut chercher. Et donc, nous, on essaye de traduire la même chose pour le monde de la carte bancaire. Comment on pourrait apporter une expérience à la Amazon dans la gestion d'une carte physique?
Oui. Voilà. Et alors justement, c'est cette plateforme D1 ou D1 en français, si on veut. Qu'est-ce qu'elle fait, cette plateforme? Elle sert à quoi?
Donc la plateforme, elle vient pour pouvoir fournir des cas d'usage pour les banques. Elles peuvent consommer à la carte. Et ces cas d'usage, en fait, les permettent de construire d'expériences clientes améliorées. Donc je donnais un exemple de l'expérience Amazon de commerce à distance. Mm-hmm. La même chose peut être faite pour une carte bancaire.
D'accord.
Donc où l'utilisateur, par exemple, à travers de leur appli, il va sélectionner quelle carte il veut. Il va pouvoir sélectionner à quelle adresse la carte sera envoyée, si ça sera en priorité ou pas, accompagner et faire le suivi de toute l'expédition. Donc en fait, c'est vraiment traduire ce que les clients, les utilisateurs, ils attendent d'expériences qui sont ultra modernes, ultra simples, qui sont très rapides, immédiates, et donc où l'appli bancaire devienne vraiment la tour des contrôles de toute la gestion des moyens de paiement.
En plus, vous le dites un peu, enfin, quand on lit un peu entre les lignes de ce que vous dites, on est vraiment dans ce paradoxe aussi. On sait que le moment du paiement, c'est le moment de friction. On veut que ce soit simple pour l'utilisateur, mais la banque, elle veut que ce soit bien complexe au niveau de la sécurité.
Oui.
Enfin, c'est ça, il faut trouver le juste équilibre entre les deux.
Oui, c'est ça. Et en fait, c'est le travail que Thales apporte, l'expérience que Thales apporte, ça fait des années. C'est comment nous, on pourrait répondre aux enjeux des utilisateurs, d'expériences qui sont extrêmement simplifiées, mais par contre, tenant compte toute l'aspect sécuritaire, parce que quand on parle de service cloud pour une banque, on parle de cybersécurité, on parle des complexités même qui varient d'un pays à l'autre, et nous, on apporte ça, on apporte l'expérience de comment sécuriser les moyens de paiement à différentes banques dans le monde.
D'accord, donc ça veut dire, je suis une banque, je suis un service financier, je vais utiliser la plateforme D1, justement, pour, à moi d'avoir l'idée, et la plateforme D1 s'occupe du reste, de la gestion des data, de la sécurité, etc.
Oui, c'est ça. En fait, nous apportons une couche supplémentaire sur AWS où on crée des cas d'usage, on crée des fonctionnalités très abouties déjà, en fait, où la banque peut de façon très simple les récupérer, les cas d'usage, mettre dans leur appli bancaire, et donc 4 mois, l'expérience est déjà simplifiée et beaucoup plus simple pour leurs clients.
Aujourd'hui, on entend beaucoup dans l'univers du cloud le edge computing. Hein. On rapatrie un peu de la data, du traitement de calcul au plus proche de l'utilisateur. C'est la même chose aujourd'hui dans les services financiers?
Oui, c'est ça. Donc, pour nous, on doit s'adapter aussi à toutes ces tendances. Et donc, on observe ce qui se passe dans d'autres domaines. Ce qui est vrai, c'est que le monde bancaire, normalement, il suit les tendances. Donc, il n'est pas les créateurs, il suit les tendances parce qu'il faut vraiment d'abord regarder qu'est-ce que se passe, ensuite comment on additionne la sécurité, comment on additionne aussi la compliance, toute la partie, l'aspect régulation. Et donc c'est pour ça que nous on suit les tendances pour pouvoir après apporter ça aux banques du monde.
Et on parle, vous faites de l'IA depuis très longtemps chez Thales. On parle beaucoup là d'IA générative. Hein, voilà, d'une année sur l'autre, c'est l'accélération complète. Comment vous l'intégrez cette IA générative aujourd'hui dans la partie service de paiement chez Thales?
Donc nous l'intégrons avec pour améliorer notre efficacité. Donc dans toute la partie développement, la partie test de nos plateformes, on intègre beaucoup de IA. Nous on intègre aussi dans la partie service client. Et donc comment nous on peut être plus efficace pour servir nos clients, mais aussi les clients qui ont besoin de consommer ces services très rapidement. Ah oui. Et pour qu'eux puissent les faire de façon plus facile. Et à la fin aussi, comment nous on pourrait fournir ces produits qui vont faciliter l'expérience utilisateur. Donc, je peux donner un exemple de la carte bancaire.
Oui.
Ici en France, on a déployé en 2020 une carte qui a un capteur d'empreintes biométriques qui utilisait déjà l'IA. Oui. Et cette IA, elle permet en fait à comprendre quelle est l'habitude de les comportements de l'utilisateur pour pouvoir améliorer et avoir une expérience de paiement de plus en plus fluide. Apprendre avec et après les valider, les authentifier.
Oui, qu'il n'y ait pas trop de choses répétitives. Tout à l'heure, je le disais, 250 millions, plus de 250 millions de cartes éco-responsables. Oui, on est aussi dans le durable avec la carte. C'est des cartes, je sais pas, en bois, en nouveaux matériaux. Là aussi, il y a de la recherche dans ce domaine.
Oui, il y a énormément de recherche en fait. Donc nous, on lance normalement entre un à deux nouveaux produits toutes les ans liées à un aspect de développement durable. Donc récemment, nous avons développé et nous avons déployé sur le terrain la carte en bois. C'est une carte qui n'a pas de plastique du tout. C'est ça qui est très intéressant. Donc, on enlève complètement le plastique d'une carte bancaire. Donc c'est quelque chose qui, il y a quelques années, on ne pourrait pas l'imaginer.
On aura un jour tout, enfin voilà, sur le smartphone, c'est-à-dire une carte un peu qui servira de carte d'identité, de passe. On viendra pour la journée à la AWS Summit, on pourra payer. Enfin voilà, vous imaginez, c'est ça le but ultime?
Ouais, c'est clairement tendance, donc ça se passera. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la carte, elle reste quand même en point de confiance pour les clients. Donc en fait, les clients, ils sont très confiants en pouvoir avoir cette carte et qu'avec, ils peuvent voyager. Il est sûr que ça sera accepté partout dans le monde, qu'elle sera utilisée, ça va fonctionner. Donc en fait, c'est une tendance, ça se passera, mais la carte reste quand même la sûreté pour les clients.
Eh bien, merci, Caio Reis, d'être venu nous parler de tout ça. Je rappelle, vous êtes en charge de la stratégie services bancaires et solutions de paiement pour Thales, hein, les cartes qu'on utilise tous au quotidien. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Allez, on marque une très courte pause. On va parler cybersécurité avec nos invités suivants.
BFM Business, Tech & Co Business, les invités.
Allez, on est reparti depuis l'AWS Summit. Tiens, c'est notre page cybersécurité avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Gilles Valbrou, bonjour.
Bonjour. Gilles,
directeur technique chez Datadome, hein, l'une de nos pépites qui existe depuis 2015, spécialisée dans l'utilisation notamment de l'IA pour lutter contre la fraude en ligne et les bots malveillants. Vous êtes près de 200 personnes aujourd'hui.
C'est ça.
Déjà, parce que on vous suit depuis quelques années. C'est vrai que ça a grandi très vite. Autre belle entreprise née en 2017, GuideGuardian, et nous recevons son fondateur, Éric Fourier. Bonjour.
Bonjour.
Éric, merci d'être avec nous. Alors, je vous, c'est 140, 150 personnes, hein, voilà. Pour se donner une idée quand même, on est quand même dans les belles PME de notre cybersécurité. Je démarre avec vous, Gilles. Vous lancez plusieurs produits. Il y a Account Protect, Ad Protect. Il y en a un tout récent là qui est dans la. J'ai vu le communiqué dans la matinée pour les JO. On va en reparler. Alors vous, votre solution, c'est bloquer les fraudes avant qu'elles ne se passent.
Exactement.
C'est mieux que Minority Report, hein, c'est ça?
Non, en fait, on va bloquer les fraudes avant qu'elles ne fassent du mal, je dirais, au business. Ça. Donc, notre solution est toujours une solution de bot protection en temps réel. Et par rapport aux solutions du marché, type les WAF ou les solutions d'analytics qui viennent rendre compte de l'attaque après qu'elle ne soit apparue et qu'elle ait fait mal aux entreprises, nous, on vient la bloquer dès qu'elle apparaît. Dès que les premiers signaux apparaissent et qu'on arrive à capter l'attaque, on la bloque, on agit sur le trafic pour éviter qu'il y ait des désastres sur l'infrastructure ou sur la réputation de l'entreprise.
Donc c'est vraiment l'IA for cyber, quoi. Parce que j'imagine que c'est un moteur d'IA qui tourne.
Exactement, qui fait de l'analyse de données en temps réel et qui vient analyser le comportement de l'utilisateur ou du bot pour détecter l'humain versus le bot qui a un comportement malveillant et donc bloquer le comportement malveillant dès qu'on a les premiers signaux.
Et on arrive encore à être trompé un peu parfois par finalement c'était vraiment un humain qui faisait ça. Enfin, il y a encore des...
Ça arrive dans 0,01% des cas. On s'autorise encore une petite faille ici. Et en fait, nos algorithmes vont détecter qu'on s'est trompé et s'adapter donc pour avoir un modèle d'humain qui va se réadapter en fonction des différents clients.
Et alors, qu'est-ce que vous... Parce que je regardais, vous analysez 5 trillions de signaux de données par jour.
Par jour, oui.
Ça veut dire, vous arrêtez quoi? Enfin, c'est... qu'est-ce qui vont être les signaux un peu précurseurs des signaux faibles ou signaux forts?
Alors, il y a plein de signaux. Il y a les signaux du type qui sont à l'origine du trafic, donc l'IP, l'autonomous system, qui sont liés à la topologie physique du réseau. Et d'autres signaux qui sont des signaux comportementaux. Donc il y en a qui vont vraiment être requête par requête, qu'on va pouvoir capter. Ok, ça c'est du bot, c'est clair, c'est un script qui s'est exécuté. Et d'autres qui vont être un peu plus fourbes, je dirais, qui vont chercher à se cacher dans le trafic et qu'on va détecter sur le comportement, sur des fenêtres de temps plus ou moins longues en fait.
Et votre présence aujourd'hui sur l'AWS Summit, parce que justement pour traiter ces masses de données, on parle des 5 trillions de signaux, il faut quand même les stocker quelque part, les traiter, c'est ça, il faut du cloud, et là notamment c'est celui d'AWS avec qui...
Exactement, donc il faut être présent partout dans le monde. Donc nous on a 26 points de présence dans le monde. Donc ça, seules les infrastructures comme les cloud providers aujourd'hui modernes peuvent nous fournir ce type de solution. Et là, pour minimiser la latence avec notre solution par rapport aux serveurs des clients qui sont sur des CDN ou des solutions hébergées comme ça. Et ensuite, il faut de la capacité de calcul derrière pour arriver à capter cette information, l'analyser à The Edge et après l'analyser plus en détail, je dirais, et la stocker pour en rendre compte à nos clients.
D'accord, on viendra vers vous justement sur comment cette IA, vous travaillez avec cette IA. Éric Fourier, donc Guide Guardian, je m'intéressais notamment, vous avez édité un rapport sur le, il s'appelle le State of Secret Sprawl. Donc les secrets, c'est ces clés, ces mots de passe. Et alors c'est incroyable, presque 13 millions de nouveaux secrets ont été divulgués publiquement sur GitHub. Donc GitHub, c'est cette immense plateforme de développement. Ça veut dire que, tous nos secrets, donc nos mots de passe, nos clés qui continuent à circuler, c'est ce que vous analysez, c'est ce que vous regardez notamment.
Tout à fait, c'est une étude qu'on publie chaque année, je crois que c'est la quatrième ou maintenant, où effectivement on analyse tout le code open source, donc le code publiquement accessible, et on applique nos moteurs de détection de secrets, donc comme vous l'avez dit, pour détecter des clés d'API, par exemple des clés AWS notamment, mais aussi ça peut être des mots de passe de base de données, des mots de passe pour accéder à des services SMTP, des jetons, des tokens. En fait, ce rapport, on essaye d'analyser qu'est-ce qu'on trouve et des nouvelles tendances. Il y a quelques petites pépites dans le rapport, notamment on voit l'émergence de toutes les clés un peu des API de LLM type OpenAI et Anthropic, et on fait une corrélation entre la popularité d'un service et le nombre de clés qu'on trouve justement qui ont leaké sur GitHub, parce qu'effectivement plus un...
qu'est-ce que vous appelez par exemple une clé OpenAI sur
fait un développeur pour justement utiliser les API d'OpenAI et appeler l'API GPT-4, GPT-3.5, en fait va utiliser un jeton d'API, une clé d'API pour justement faire ses calls d'API et avoir la réponse à son prompt et à sa demande.
Et alors je regardais dans votre rapport des fuites qui frappent plutôt le secteur industriel. Ça reste toujours notre on a beaucoup de maillons faibles sur les hôpitaux, les administrations, mais le secteur industriel, malgré tout ce qui arrive depuis 2018, les notes Petya, tout ça de l'époque, ça reste un maillon faible dans notre univers cyber.
Alors je dirais que ça frappe à peu près tous les tous les secteurs. C'est une erreur qui est vraiment liée au développeur en fait. C'est le développeur qui généralement veut aller vite, fait une erreur et va mettre le jeton et l'information sensible dans le code. Et soit il le développe en open source et donc le push publiquement, soit ça arrive aussi sur les repos privés. Mais donc ça touche à peu près toute entreprise qui appartient à un certain nombre de développeurs. Ça devient juste une question de probabilité.
D'accord.
Quelle est la probabilité d'avoir une leak sur GitHub?
Et qu'est-ce qui explique toute cette prolifération là de secrets justement? Parce que oui, on a de plus en plus d'API, on a de plus en plus de... on a ces LLM qui arrivent, mais pourquoi il y en a autant?
C'est exactement ce que vous décrivez. C'est depuis ces 5-10 dernières années, on a un peu une révolution du cloud computing, de la tendance DevOps, des microservices, qui fait que les entreprises, toute entreprise maintenant est un peu une software compagnie va développer de plus en plus de services, d'applications. Et ces applications, elles ont besoin de communiquer entre elles. Et pour ça, elles utilisent justement des secrets. Donc en fait, c'est proportionnel au nombre d'applications, à la modernité des nouvelles entreprises qui vont sur le cloud. Toute entreprise cloud native va avoir des centaines de SaaS, des centaines de microservices si elle a une architecture microservice.
Et qu'est-ce qui va changer avec l'IA? Enfin, qu'est-ce qui avec la détection justement de ces secrets, l'IA va permettre de mieux détecter ces secrets?
Alors c'est une très bonne question. Nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis 6 ans. On a déjà des modèles hybrides, c'est-à-dire on a une partie qui sont des règles heuristiques et après avec des modèles de machine learning et d'IA pour faire filtrer les faux positifs ou faire de la priorisation. Mais l'IA nous aide beaucoup pour ce qui est le cœur de notre métier. C'est pas juste de détecter les problèmes, mais c'est aussi de les résoudre. Et donc ce qu'on appelle la remédiation, c'est comment aider les développeurs à écrire du bon code, à leur suggérer des fixes pour leur code qui sont pertinents. Et là, les LLM sont très 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 bons dans tout ce qui est génération du code. Donc ça, c'est la partie positive. Et la partie un peu plus négative, c'est que bah, les LLM font de la génération du code et eux aussi font des erreurs. Et on a vu dans la presse, notamment des OpenAI, qui a vu qu'il est entraîné sur tout le code public, peut des fois produire, donner des vraies clés d'API de vraies personnes et devenir une vulnérabilité, créer des vulnérabilités en soi.
C'est un problème qu'on retrouve chez l'un comme chez l'autre, enfin ce que vous voyez sur le marché, comme on est beaucoup avec cette IA dans l'automatisation, c'est là, hein, c'est cette IA qui va générer qui colporte un peu ses erreurs, Gilles.
Oui, effectivement, nous on le voit dans la partie web, les attaquants utilisent ces IA pour générer du code plus facilement, pour s'adapter aux solutions de blocage, et donc plus rapidement générer des nouveaux codes d'attaque, et pour pouvoir générer de nouvelles attaques, effectivement.
Donc ça veut dire aussi, Eric, au niveau de ces développeurs, que c'est à eux de se responsabiliser. Ils sont responsables, mais de se forcer un peu à faire un peu plus attention à cette IA, parce que on voit évidemment, surtout sur GitHub, quand on parle avec beaucoup de développeurs, cette facilité, hein, on gagne en productivité, on gagne en automatisation, mais justement, il faut continuer quand même à surveiller ce code.
Tout à fait. Je pense qu'il faut mettre l'IA aujourd'hui c'est marketé dans les différentes solutions. On appelle ça le GitHub Copilot, copilots dans différentes solutions. Donc ça reste une aide aux développeurs. Aujourd'hui, on n'est pas arrivé encore à une IA autonome qui est capable de coder elle-même. Mais donc c'est aux développeurs en fait de checker qu'est-ce que renvoie l'IA et d'utiliser aussi des solutions de sécurité. En plus et en surcouche au-dessus du code que génère l'IA pour mettre des guardrails sur cette partie-là.
Et du coup, ça peut remonter des alertes vers les développeurs en leur disant attention, là, vous faites des erreurs, vous développez trop, il y a une trop grande prolifération de secrets.
Alors nous effectivement notre solution elle est déployée, elle peut être utilisée donc dans l'environnement de travail des développeurs et directement quand ils codent, ils savent s'ils mettent un secret, GitGuardian va les prévenir, attention il y a un secret, ou si une IA génère un code avec un secret, ils vont recevoir une alerte de GitGuardian directement dans leur interface, donc dans leur IDE, dans Git, etc.
Comment vous voyez justement, Gilles, cette intégration de l'IA parce que vous, du coup, ça décuple un peu aussi les difficultés que vous allez avoir à trouver des failles, à lutter contre la fraude, notamment.
Alors nous, on est agnostique en fait de cette partie-là de l'utilisation de l'IA, puisqu'on on se base sur des signaux qui sont pas utilisés par les IA aujourd'hui. Alors effectivement, il y a des automates qui vont pouvoir chercher différentes valeurs de header ou ce genre de choses pour trouver du code malveillant pour rentrer sur les sites. Mais aujourd'hui, nous, on arrivera à les identifier très tôt ou très tard, potentiellement s'ils sont très très forts. Mais on arrivera à les identifier et donc à les bloquer au final.
Vous regardez en ce moment l'actualité globale de la cyber avec ce gros problème que rencontre Microsoft, pour ne pas le nommer. En ce moment, ils ont eu une grosse faille en janvier. Ça se répercute chez les utilisateurs. Enfin, c'est quelque chose que vous suivez au quotidien.
Oui, c'est des choses qu'on suit au quotidien parce que toutes ces failles-là, en fait, peuvent avoir des implications. Je prends une fuite de compte, par exemple, chez quelqu'un peut générer des nouvelles attaques de credential stuffing. Donc, on a une cellule de veille de ces attaques-là et on regarde, après, on essaie de réconcilier toutes ces fuites ou toutes ces attaques avec des signaux qu'on connaît, nous. Par exemple, encore une fois, l'origine de ces attaques, d'où elles viennent, des signaux pour arriver à les bloquer et à les identifier, donc arriver à les bloquer chez nos clients.
Eric, est-ce que tout ce que vous remontez, on est au niveau des développeurs, mais est-ce que pour les entreprises, c'est un moyen? On voit aujourd'hui, mon idée derrière, c'est qu'on voit aujourd'hui les assureurs, je remonte un peu plus loin, je remonte un peu dans les couches, les assureurs qui hésitent de plus en plus à couvrir des risques cyber, parce qu'il y a ceux visibles, alors ceux qui peuvent être repérés par Datadog, mais il y a ceux qui sont un peu plus invisibles dans le code. Là, on sensibilise aussi les développeurs autour de tout ça.
C'est une problématique très intéressante. Je pense qu'il y a un vrai enjeu d'hygiène, de sécurité au niveau des entreprises. Et ça, pour atteindre cette hygiène-là, il faut forcément sensibiliser, éduquer le développeur pour éviter qu'il produise des failles. Et chez nous, c'est tout l'enjeu finalement de ce qu'on fait. Il y a un ingénieur de sécurité pour 100 développeurs. Donc le combat, il est un peu perdu d'avance si on demande à l'ingénieur de sécurité de résoudre toutes les failles. Donc il faut absolument... mettre le développeur dans la bataille.
Ouais, les acculturer tout de suite.
Et qu'il soit éduqué, qu'il crée moins de failles et qu'il aide aussi à la résolution des problèmes historiques l'aide des experts.
Le Secure by Design. Un dernier mot, Gilles. Vous êtes attaqué là, en ce moment avec un de vos concurrents. Ça se passe comment? C'était sur des brevets, tout ça? C'est le marché qui veut ça? C'est toujours
il y a ouais, j'irais, c'est une partie de la rançon du succès, ouais. Malheureusement. Donc oui, il y a des concurrents qui nous ciblent sur la propriété intellectuelle. Mm-hmm. Voilà, c'est un sujet légal qu'on traite
êtes,
via le légal, mais c'est pas
assez
un sujet
serein. Les États-Unis sont serein. Très forts pour utiliser des avocats.
Oui, l'IP qu'on a chez nous, on l'a développé chez nous.
On n'aime pas trop voir des petits Français, des Français qui commencent à s'imposer, donc c'est un peu ça.
C'est ça, c'est un compétiteur historique, donc... Voilà, encore une fois, sujet légal qu'on traite avec du sérieux, mais sur la partie tech, pas d'inquiétude de mon côté.
Eh bien, merci à tous les deux. Donc, Datadome qui lance trois produits, hein, Account Protect, Ad Protect. On n'a pas eu le temps de parler du dernier SOC Premium, mais on aura l'occasion d'en parler parce que c'est pour les JO.
Exactement.
Et là, c'est vrai qu'on fera une émission spéciale sur BFM Business, sur la sécurité, notamment autour des JO. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, ce rapport, hein, State of Secrets Pro, voilà, si vous êtes développeur, il y en a beaucoup ici sur la AWS Summit, eh bien, allez sur le site de Guide Guardian et puis pour utiliser les solutions. Merci à tous les deux, Eric.
Merci. Merci.
Gilles, et nous allons parler tout de suite de numérique chez Airbus. C'est tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Allez, dernière partie de cette émission depuis l'AWS Summit. Nous sommes ravis d'accueillir Catherine Gestin. Bonjour.
Bonjour.
Catherine, directrice du numérique chez Airbus, DSI. Enfin, voilà, vous pilotez vraiment l'ensemble des systèmes d'information et du numérique chez Airbus. Tiens, pour comprendre, je pense que pour tous ceux qui connaissent évidemment Airbus, mais pour comprendre vraiment le numérique est une affaire ancienne, hein, chez Airbus, la data, vous connaissez ça, l'IA aussi, on va en parler. C'est peut-être l'application Skywise. C'est peut-être là où on va voir comment vous mettez en œuvre cette data, cette gestion de la data, cette protection de la data et puis cette intelligence artificielle.
D'accord. Donc, alors, le projet Skywise, en fait, il a été lancé il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Donc, c'est une plateforme, en fait, de gestion de la donnée où on récupère de l'information à la fois interne, en provenance de nos systèmes PLM, de nos systèmes ERP, mais aussi de l'extérieur et en particulier de nos clients où on récupère les données, en fait, de nos avions. On a tout l'écosystème, on a aussi des données qui viennent de certains de nos fournisseurs. Et donc, en fait, on a normalisé, en fait, toute cette donnée pour créer ce qu'on appelle des data products qui ensuite sont utilisés par les équipes de data scientists, de data analysts pour créer des tableaux de bord, pour créer des applications pour nos clients. On a développé plus de 30 applications à destination de nos clients.
Donc sur de la maintenance prédictive.
Voilà, sur de la maintenance prédictive, donc qui permettent, à partir des signaux faibles que l'on récupère des avions, de prévoir effectivement des maintenances en avance, donc avant que l'avion soit en panne.
Tout ce dont on parlait il y a 5-6 ans, voilà, c'est concret.
Maximiser pour les.
Aujourd'hui.
Voilà, pour nos. Ça, c'est complètement concret aujourd'hui. On a entraîné un peu plus de 150 modèles d'intelligence artificielle sur ces données, de façon effectivement à avoir des modèles prédictifs pour nos clients, avec différents des modèles également en interne pour optimiser nos stocks, des modèles qui nous permettent de prévoir des produits manquants. Donc de s'assurer qu'on a bien tous les stocks
nécessaires. Vraiment, c'est le cycle de vie de chaque pièce
qui est utile à construire
ces avions et ces hélicoptères.
Exactement.
Donc. On parle beaucoup d'IA générative ici, évidemment, dans l'AWS Summit. L'IA générative, ça démarre par l'acculturation. Alors, j'imagine que, comme beaucoup, vous avez dû être un peu enthousiaste au début, puis après se dire, oula, mais si moi je l'utilise même à titre perso... Il y en a beaucoup dans l'entreprise qui sont peut-être déjà en train de le faire. Donc, comment ça s'est passé? Comment ça se passe chez Airbus aujourd'hui?
Alors, ce qu'on a fait, c'est que on a fait effectivement de l'information et de la formation. pour expliquer quelles étaient les données qui étaient utilisables effectivement en matière de d'IA générative. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est en fait, on travaille sur des modèles qui sont dans l'environnement Airbus.
D'accord, c'est un Airbus GPT, quoi.
Enfin, voilà, si je résume, une sorte d'Airbus GPT, si on veut, pour éviter effectivement que de la donnée sensible de propriété intellectuelle, etc., ne soit diffusée dans le monde public. Donc, par contre, ce qui a été très intéressant et ce que je trouve très intéressant avec l'IA générative, contrairement à l'IA classique, qui nécessite beaucoup de travail sur la préparation des données, sur l'amélioration de la qualité, etc., l'IA générative, elle arrive pratiquement prête à l'emploi. Oui. Et donc, du coup, on a pu toucher des populations très très différentes, oui, de celles qu'on avait avant. Donc on a aussi bien, donc quand on a commencé à collecter, oui, l'ensemble des cas, on a aussi bien eu des cas qui sont venus du légal, donc en disant mais est-ce que vous pourriez nous aider à faire de l'analyse de contrat,
mm-hmm, sur les brevets, voilà, sur, voilà, sur, parce que c'est un peu ça l'IA. On dit aux gens allez-y chercher les cas d'usage, mais on a l'impression qu'on s'adresse aux populations. Alors vous pilotez le numérique, les systèmes d'information, aux populations techniques, enfin informatiques, numériques, on se rend compte finalement ça intéresse aussi les ventes, le marketing. Et puis quand on creuse un peu, on voit que ça intéresse aussi des populations, des collaborateurs qui n'ont pas forcément un contact avec l'outil numérique tous les jours. Et pourtant les cas d'usage viennent peut-être de là.
Oui, on a eu beaucoup de cas d'usage qui sont venus effectivement des collaborateurs. On a un cas par exemple avec nos compagnons sur les chaînes d'assemblage. Pour leur donner l'accès, faciliter l'accès en fait aux données techniques, et donc vérifier par exemple quelle est la clé de torquage qu'ils doivent appliquer sur une opération spécifique, plutôt que de rechercher sur la tablette dans les centaines, d'accord, de pages de documentation. Et bien ils posent la question,
et tout ça avec un langage naturel,
voilà, et tout ça avec une interaction avec un langage naturel. Donc pour eux c'est une vraie aide au travail quotidien. On a d'autres cas d'usage qui sont venus des techniciens qui sont chez nos clients et qui identifient des pannes et qui interviennent sur des pannes chez nos clients et qui ont, eux, accès à une base de données qui leur permet de retrouver des cas similaires et de retrouver surtout les solutions qui avaient été apportées et donc de pouvoir apporter des réponses à nos clients beaucoup plus rapidement que ce qu'on faisait auparavant.
Aujourd'hui, donc, vous avez tout un écosystème, hein, important de sous-traitants, puis en aval de vos clients. Ça veut dire beaucoup de données à partager, bon, la donnée aussi qu'il faut sécuriser. Comment vous réussissez à avoir justement intégré tout ça dans votre modèle, à la fois votre modèle d'organisation, votre business model?
Alors sur la protection, on a des équipes de cybersécurité, oui, très développées,
oui,
voilà. Donc
en plus,
donc on a des équipes dont le travail effectivement est de sécuriser l'ensemble de l'écosystème, et ensuite en matière on a aussi fait de la classification de nos données pour s'assurer que effectivement les données les plus sensibles en matière de prix par exemple pour nos clients, en matière de brevets, sont accessibles à la population qui a besoin d'accéder à cette information là. Donc on a ces deux aspects là qui sont gérés. Donc on a toute une organisation de data, de gouvernance de données, avec pour chaque fonction un responsable de la classification qui va indiquer si telle donnée peut être partagée largement dans l'entreprise ou si elle doit être containerisée en fait et protégée plus particulièrement.
On parle beaucoup de développement durable, hein, de décarbonation quand on parle de l'aviation. Aujourd'hui, comment le digital va aider, justement le numérique va aider à décarboner selon vous?
Alors aujourd'hui, c'est un des principaux projets que l'on a s'appelle DDMS, donc pour Digital Design, Manufacturing and Services. Donc c'est la prochaine génération de PLM qui va nous permettre de concevoir en même temps l'avion du futur et en fait on va réduire
la colonne d'empreinte carbone à côté.
On va réduire le temps de cycle. Et on va faire beaucoup de simulations pour éviter d'avoir à faire des maquettes et réduire en fait les tests physiques qui étaient faits auparavant. Donc on travaille sur des nouveaux matériaux. Et en fait, c'est ces solutions-là qui effectivement sont au service du bureau d'études pour leur permettre d'inventer et de designer l'avion du futur. Voilà.
Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, Catherine Gestin, donc directrice du numérique des systèmes d'information chez Airbus. Voilà, on voit toute l'utilisation de cette IA, de ce cloud, de ces data. Merci de nous avoir suivis depuis la AWS Meet. On se retrouve la semaine prochaine. On continuera évidemment à parler de numérique et beaucoup encore d'intelligence artificielle. Excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.
Les essentiels BFM Business. Ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans Tech & Co.
Bon. Merci d'être avec nous, François Bitouzé, directeur général de Viva Technologies, alors VivaTech, voilà pour les amis, comme on disait à l'instant. Huitième édition déjà sous le signe de l'IA, évidemment, ça va être ça, mais pas seulement. On va beaucoup parler international, on va beaucoup parler business, parce que les entreprises sont là avec les startups. On va beaucoup parler aussi développement durable. Alors ça avait déjà été le cas plus la version, peut-être pas l'année dernière, l'année d'avant, mais ça reste quand même une grosse tendance forte. On y revient. Il va falloir faire très fort parce que l'année dernière, c'était Elon Musk qui était sur scène avec Maurice Lévy. Mais bon, on vous fait confiance pour avoir encore beaucoup de grandes entreprises qui viennent là avec leurs startups, mais aussi avec leurs innovations. Parce que ça, c'est nouveau. Si on regarde la première édition, elles aimaient bien avoir toutes ces startups. Ça permettait de faire jeune. Mais là, aujourd'hui, on a des grandes entreprises qui sont là avec leurs innovations. Voilà, qu'est-ce qu'il faut voilà, c'était aujourd'hui l'annonce hein, des grands programmes. Qu'est-ce qu'on doit retenir un peu des grandes lignes? Alors, 25, le 25 plutôt grand public, mais voilà, il y a déjà beaucoup de choses à découvrir.
Oui, VivaTech est de retour, c'est la 8e édition comme vous l'avez dit, et ça va être cette année l'événement international incontournable pour le monde du business, le monde de la tech, du digital et des startups. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette année, on a décidé de mettre la barre encore plus haut pour tout ce qui va concerner les innovations, les speakers et puis les opportunités business. Donc, beaucoup de surprises à venir. J'espère que vous aurez des papillons dans les yeux quand vous serez à Viva Technologies. Mais on a une très belle conjoncture par rapport à VivaTech et on a aussi un moment de la technologie qui est absolument incroyable et je peux vous dire qu'on va être le miroir de cette ébullition de la tech.
Alors il faut bien dire, hein, chacun des grands salons mondiaux ont leur ADN, leur identité. On a le CES, alors qui je trouve est quand même un salon très très américain quand même si tous les gadgets, toutes les innovations sont de portée mondiale, mais ça reste quand même très américain. Le Mobile World Congress qui lui voilà est un vrai salon B2B très très international et puis dans tous ces rendez-vous VivaTech réussit à avoir voilà aussi sa touche avec on le rappelle hein, il y a les plus grandes entreprises sont là, les LVMH, les L'Oréal, les Orange, les Schneider, enfin les EDF, ils sont tous là avec leur lot de start-up, mais je dis ce qui change aussi, c'est avec leurs propres innovations. Ça aussi, c'est une des tendances. On l'a vu se dessiner, mais là, c'est fortement marqué cette année.
Oui, exactement. Et c'est vrai que ce qui rend VivaTech unique, c'est que dans 25 secteurs économiques, on a les acteurs les plus importants du marché au niveau mondial. Donc, par exemple, si vous intéressez à l'automobile, on a BYD, on a Tesla, on a Peugeot, on a Software, on a Audi, on a Toyota, et ça dans 25 secteurs. Donc, ces entreprises, elles viennent pour nous raconter comment elles font l'innovation, qu'est-ce qu'elles innovent, et surtout, elles vont nous raconter, mais dans les 12 mois, dans les 18 mois qui viennent, qu'est-ce qui va changer sur leur marché. Et c'est ça, la force de VivaTech, c'est que c'est ce coup d'avance finalement autour de ce qui se passe de manière très très concrète dans le marché et dans le secteur de la tech.
2500 startups, 2000 investisseurs, donc on est là aussi pour connecter tout ce monde. Hein. On le disait à l'instant dans l'autre partie de l'émission, dans notre débrief. Voilà, on sent qu'au niveau des fonds d'investissement, ça cale un peu en montant. Par contre, il y a toujours autant de tickets, hein, c'est juste les montants, mais on sent quand même un petit frémissement. Donc je pense qu'on le retrouvera sur VivaTech. Un salon plus porté sur l'international aussi. Hein. Il y a beaucoup de Elon Musk évidemment était l'année dernière, mais pas que. Il y a beaucoup vous misez beaucoup voilà pour faire venir des acteurs internationaux, des visiteurs.
Non exactement. Et c'est vrai que VivaTech c'est devenu une plateforme internationale. Alors évidemment nos racines sont européennes, mais on est devenu une plateforme qui relie l'Asie à l'Europe, l'Amérique du Nord avec l'Afrique, l'Europe avec l'Amérique du Sud. Et je pense que c'est très apprécié à la fois pour les marques qui viennent à Vivatech et par les visiteurs. Et l'autre jour, je discutais avec un Américain, il me disait « Mais j'adore Vivatech parce que c'est le one-stop shop, le guichet unique pour découvrir le meilleur de la tech mondiale et particulièrement européenne. » Donc nous, voilà, je pense que dans un moment où la géopolitique devient de plus en plus compliquée, notamment dans la tech, on est une espèce de safe place où la table est ouverte, tout le monde est là et je pense que c'est très européen et c'est ça qui plaît à Vivatech.
Alors faites-nous saliver aussi parmi les personnalités. Alors on aura évidemment nos stars, nos Arthur Mensch de Mistral, on aura Bernard Arnault, patron de LVMH, on aura Nathalie Collin de La Poste, on aura Christelle Edelman d'Orange, mais voilà, l'année dernière je disais Elon Musk. Alors on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. On connaît Maurice Lévy est toujours assez facétieux pour nous sortir quelqu'un du chapeau, mais il y a Thierry Breton qui sera là. Enfin, oui, voilà, il y a aussi une ambition internationale aussi du côté des
L'Europe va être très présente. Vous savez que Vivatech, on sera quelques semaines avant les élections européennes.
Oui.
Et il est certain que les questions digitales, tech, seront un gros sujet de ces élections. Donc on est content. Thierry Breton sera là. On aura aussi Charles Michel qui va venir à Viva Technologies. On a des beaux...
Président du Conseil
président
européen.
Président du Conseil européen, oui, oui. Bien sûr. On va avoir dans la tech, par exemple, Meredith Whittaker, Eric Schmidt, par
Linda
exemple.
Iaccarino.
Linda Iaccarino. Donc, ça fera un peu plus d'un an qu'elle est arrivée chez X. Donc, elle aura des choses à nous raconter.
Retrouvez Tech & Co en direct du lundi au jeudi dès 20h sur BFM Business.